La santé, c'est l'affaire de tous.
Il est l'heure de parler santé sur Phare FM Montauban. J'accueille sans plus tarder le très souriant Edmundo Pereira. Bonjour Edmundo, comment vas-tu aujourd'hui ?
Très bien Laurent.
Je présente rapidement ton invité d'aujourd'hui, c'est le professeur Jean-Jacques Lehaut. Bonjour professeur.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite des universités chez Université Claude Lyon 1. Le sujet du jour, comment améliorer ou préserver nos capacités cognitives. Edmundo, professeur Lehaut, je vous laisse l'antenne.
Merci beaucoup Laurent. Déjà, merci beaucoup professeur Lehaut. De donner votre temps parce que je sais que vous êtes quelqu'un de très pris. Avant d'aborder ce sujet qui est très intéressant, on a pas mal de questions. Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Oui, bah très vite. Moi, je suis professeur émérite d'anesthésie-réanimation. J'ai exercé cette spécialité pendant plus de 40 ans aux Hospices Civils de Lyon. Et j'ai enseigné, et je continue à enseigner d'ailleurs, dans plusieurs unités d'enseignement, master, en particulier sur l'éducation à Lyon 1, à l'Université Lyon 1, Claude Bernard. J'ai également fait 48 ans de réserviste dans le service de santé des armées. Et bon, actuellement, donc, on vient de publier un ouvrage avec le docteur Marc Lillo, qui est maître de conférence à Lyon 1. Et cet ouvrage s'appelle « Les apprentissages de la synapse à la classe » et est édité chez Ellipse. Alors, on s'est particulièrement intéressé à comment on apprend quand on est enfant, et puis comment on peut préserver au mieux ses capacités cognitives, comment on peut continuer à apprendre jusqu'à la fin de la vie, parce qu'en fait, chaque fois qu'on a un événement nouveau, il faut apprendre à s'adapter et c'est indispensable. Sinon, on ne devient plus autonome. On en parlera un petit peu tout à l'heure.
Parfait. D'ailleurs, avant d'attaquer les questions, je voulais quand même vous remercier ici. Vous étiez quelqu'un essentiel dans ma formation en tant qu'anesthésiste parce que quand je suis arrivé en France, j'ai eu la chance de tomber dans votre service. Comme aussi, je dois beaucoup à vous le fait de rentrer dans l'armée, défendre ce pays qui est le mien maintenant, la France. Merci beaucoup. C'est grâce à vous que j'ai commencé à travailler à la Valbonne et que je continue encore. Un grand merci, je suis éternellement reconnaissant pour toutes les choses qui vous avez représentées, qui vous représentez pour moi encore. Hein. Merci beaucoup, professeur Léo.
Alors, je dois dire à Edmundo que tu as été quelqu'un d'un dynamisme extraordinaire, parce que non seulement tu as validé ta spécialité médicale d'anesthésie-réanimation dans notre pays, qui est maintenant le tien, mais tu es devenu réserviste, comme tu disais, et puis tu fais partie du club très très fermé des PhD, c'est-à-dire il y a très peu de médecins qui sont PhD et habilités à diriger des recherches. Donc, c'est une performance vraiment peu commune et bravo pour cette performance.
Ouais, vous êtes pour beaucoup. Alors, on va attaquer la première question. Quels sont les quatre piliers de l'apprentissage ?
Oui, alors je crois qu'effectivement, il faut remettre les pendules un peu à l'heure. Hein. C'est des choses qui sont connues dans des milieux spécialisés, notamment professeur Dehaene au niveau de l'éducation nationale essaie de faire passer ses idées, mais bon, il faut l'aider parce que la France a des soucis. Classement PISA, on s'est cassé la figure depuis quelques années. On est maintenant à la 23e place. J'espère que ça va se stabiliser, voire remonter un petit peu. Mais en plus, il y a de grosses disparités entre toujours de bons élèves et puis des élèves qui sont pas très brillants. Donc ça veut dire qu'il y a des différences qui sont de plus en plus importantes et qui sont plus importantes dans notre pays que dans la plupart des autres pays de l'OCDE. Alors on n'apprend pas aux enfants, malheureusement, en CP, comment leur cerveau fonctionne. Peut-être que c'est ce qu'il faudrait faire avec des termes extrêmement simples, parce que c'est pas très compliqué. Hein. Alors, on parle des quatre piliers de la sagesse, mais ça vient après un prérequis qui fait que un enfant, même un adulte, il apprend bien quand il a un sentiment d'être en sécurité, hein, c'est-à-dire sécurité à l'école, il faut pas qu'il soit harcelé, il faut pas qu'il ait faim non plus. Actuellement, il y a 14% des Français qui ont faim, il faut le savoir. Et puis, il y a 20% des 18-25 ans qui sont dépressifs. éco-anxiété, peur de la guerre, etc. Donc ça, c'est tous des facteurs qui perturbent les apprentissages. Alors, les quatre piliers bien classiques, maintenant, on va les énumérer en expliquant un petit peu, et puis on va dire qu'il y a un cinquième, mais je vous réserve la surprise. Et classiquement, c'est pas, il y en a quatre. Le premier, c'est l'attention. Alors l'attention, c'est un phénomène qui est extrêmement fluctuant. On écoute le professeur, par exemple, on va bien l'écouter avec un maximum d'attention pendant 3 minutes. Et puis après, l'attention va baisser un petit peu et elle va se maintenir plus ou moins longtemps avec des fluctuations, qui sont dues aux distractions, qui sont parfois des distractions externes, parce qu'on a un voisin qui va faire un petit geste ou qui va parler, ou alors parce qu'on a un smartphone qui est posé devant soi, donc même s'il est arrêté, ça suffit, et c'est bien prouvé, à avoir une distraction. Et puis bien sûr, comme on disait, il y a des distractions internes, si on est préoccupé, si les parents se disputent, si on est harcelé, etc. Donc là, c'est des phénomènes qui font que l'attention va pas forcément être au rendez-vous. Et ça, c'est valable aussi chaque fois qu'on veut apprendre quelque chose. Il faut savoir que l'attention, c'est important parce qu'elle prédit le niveau scolaire qu'on va avoir après vers 15 ans, c'est-à-dire à l'âge de PISA, où on va évaluer les performances des élèves de l'OCDE. Donc c'est très important, les capacités d'attention. Elles mûrissent plus ou moins rapidement et jusqu'à l'adolescence. Donc elles sont moins importantes jusqu'à l'âge de 15-16 ans. Il faut savoir qu'on ne peut penser qu'à une seule chose. Donc, la moindre petite chose autour de nous, la moindre distraction, ça va être l'attention qui va baisser. Alors, on sait que, par exemple, de jeunes adultes, eh bien, ils vont être pleinement attentifs que dans 50% des cas. Par contre, il y a des moyens pour augmenter l'attention. Si on discute, une discussion, eh bien, on va être attentif dans 75% des cas. Et puis, si on demande à des élèves, par exemple, de résoudre un problème, eh bien, ils seront attentifs dans 83% des cas. Donc, il y a des trucs pour les enseignants. Également, on va poser des quiz. On le fait, par exemple, dans les congrès, l'enseignement post-universitaire, on pose des quiz pour augmenter le degré d'attention. Après, il y a des règles que l'enseignant doit suivre, bien sûr. D'abord, la première règle, c'est ce qu'on appelle l'alignement pédagogique. Alors, il faut que ce que l'on enseigne ait une chance d'être utile pour l'apprenant. Si l'apprenant se rend compte que ça va absolument pas lui servir, ça sera un petit peu moins source d'attention. Et puis, il faut ajuster le niveau. Si c'est pas un niveau trop haut, pas un niveau trop bas, et c'est pour ça qu'il faut connaître son auditoire. Après, il faut savoir varier les activités. Pendant quelques dizaines de minutes, on va avoir une même activité. Et puis après, changer. Par exemple, passer une vidéo. Il faudra faire aussi des breaks, que les gens puissent un peu respirer, etc. Faire des activités physiques. En France, ça se fait pas beaucoup. Mais il y a des pays comme le Japon où on va faire une activité physique en tant que break. Et ça, c'est efficace. Il y a des études qui l'ont très bien montré. Voilà, et puis si on fait une pause, parce qu'il faut faire des pauses pour se reposer, respirer, ben, il faut pas se précipiter sur le smartphone, parce que c'est distractif, et ça va pas permettre de récupérer comme il faut pendant la pause. Donc il y a quelques études qui sont de bonne qualité, qui montrent tout ça. Alors ça, c'est donc l'attention qui est le premier pilier. Le deuxième, c'est s'engager de manière active pendant le cours. Pendant qu'on a de l'information, on reçoit de l'information, il faut que le cerveau de l'apprenant soit actif, hein, qu'on puisse faire fonctionner ses synapses, et ça va tourner. Alors ça tombe bien parce que le débit de la parole est beaucoup, beaucoup plus lent que l'activité cérébrale. Donc on a plein de temps dans sa petite tête pour générer des hypothèses sur ce qu'on a entendu, pour se raccrocher à des connaissances antérieures. C'est un petit peu comme des couches de peinture successives, les connaissances. Hein, on les accumule, mais il faut que ça soit raccroché à une bonne couche qui est en dessous. Prendre des notes. Actuellement, les étudiants, je les vois de moins en moins prendre des notes. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Il faut aussi qu'ils posent des questions parce que ça relance l'attention de tout le monde et puis ça permet aux professeurs de voir un petit peu le niveau, est-ce qu'ils ont compris ou est-ce que l'ensemble de la classe est complètement à côté de la plaque. Et puis pour le formateur, pour l'enseignant, il faut quand même qu'il se débrouille pour varier la prosodie, hein, c'est-à-dire pas parler de manière monotone, mais au contraire faire des prises de parole en changeant de ton, ce qui n'est pas très facile d'ailleurs, hein, on n'est pas acteur, on est enseignant, on n'est pas acteur. Et puis chercher à piquer la curiosité, des fois en racontant des petites histoires, et puis essayer de créer du plaisir pour celui qui écoute, raconter des anecdotes par exemple. Voilà, donc ça c'est le deuxième pilier, l'engagement actif. Et puis après le cours, eh bien tout continue parce que le troisième pilier c'est le retour sur erreur. Et le retour sur erreur, c'est pendant le travail personnel. Il faut se tester, c'est-à-dire faut pas lire son cours bêtement, je dirais, mais il faut se tester en disant bon bah alors j'ai appris un certain nombre de choses. Finalement, qu'est-ce que j'ai appris? Donc se réciter son cours. On a lu un chapitre, dire bah finalement qu'est-ce que j'ai retenu de ce chapitre. On se rend compte souvent qu'on en a retenu qu'un quart, la moitié, mais c'est pas grave. Mais il faut revenir dessus. C'est comme ça qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas tout retenu. Et puis, c'est un petit peu difficile de travailler tout seul. Et moi, je recommande vraiment de travailler en groupe d'étudiants, avoir quelques camarades d'un niveau à peu près équivalent, qui a à peu près les mêmes objectifs, pour pouvoir travailler avec eux et se réunir régulièrement, faire un agenda avec des calls régulières. Alors, il y a des trucs aussi quand on travaille tout seul qui sont extrêmement intéressant, c'est reconnu depuis pas mal d'années maintenant, c'est l'utilisation des flashcards. Alors qu'est-ce que c'est qu'une flashcard? Bah, c'est une petite fiche, un Bristol si on veut, dans lequel on va poser une question. Poser une question qui a trait au cours, une question importante si possible, et puis on va pas écrire la réponse en dessous, on va l'écrire derrière. Donc quand on va travailler tout seul, on va se poser la question et puis on va répondre. Alors on regarde la réponse après derrière, on a fait juste, ou on a fait faux. Si on a fait faux, ben on révise à nouveau. Et puis ça, ben ça permet de réviser. Et si on a, par exemple, pour un chapitre 10 flashcards, eh ben très bien, on va réviser. Et puis pour les révisions générales avant l'examen, eh ben il faudra petit à petit progresser jusqu'à pouvoir répondre à 100% des flashcards. Alors les flashcards, c'est une technique qui est assez étudiée, assez utilisée par les étudiants actuellement. Enfin, moi, j'ai des étudiants qui ont réussi leur concours de première année de médecine. Ils ont des bonnes méthodes en général pour apprendre. Et les flashcards, ça, ils connaissent. Hein. C'est à mon époque, ça n'existait pas. On n'avait pas encore inventé ça. On avait d'autres petits moyens, mais bon, c'est un moyen important, les flashcards. Voilà. Et puis quatrième pilier, c'est toujours après le cours, c'est consolider ses connaissances. Donc, c'est faire des révisions, bien sûr. Parce que si on ne révise pas, on va au cours, bah, au bout de quelques jours, voire de quelques semaines, si on est très doué, bah, il ne reste plus rien. C'est comme si on était allé à la piscine au lieu d'aller en cours. Donc, il faut réviser. Ça, c'est extrêmement efficace. Et il faut pas réviser de plus en plus fréquemment, comme on le fait souvent avant un examen, mais au contraire, il faut réviser à des intervalles de plus en plus longs. Là, c'est archi connu maintenant depuis plusieurs dizaines d'années, donc c'est vraiment un principe important. Donc réviser à intervalles de temps de plus en plus longs. Voilà, puis je vous avais dit qu'il y a quatre piliers classiques, mais j'en rajoute personnellement un cinquième, parce que je travaille dans un master avec une enseignante qui insiste beaucoup sur l'importance d'une chose qui est le sommeil. C'est-à-dire que si on dort pas assez, on n'est pas attentif, on n'a pas beaucoup d'attention et puis la mémoire est de mauvaise qualité. Donc il faut dormir tranquillement. Il vaut mieux dormir que de veiller tard. Et le sommeil, c'est vraiment très important avec un sommeil qui est beaucoup plus long évidemment chez le petit enfant, mais chez l'adulte, c'est assez variable. Il y a des gens qui ont besoin de 10 heures de sommeil, d'autres plus chanceux qui ont besoin de 3 heures, mais il faut avoir tout son sommeil, sinon on ne profite pas de sa journée et la mémoire ne fonctionne pas, parce que l'hippocampe emmagasine, en particulier pendant le sommeil, pendant certaines phases du sommeil, donc il faut dormir.
Parfait, on va attaquer effectivement la deuxième question. Quel est le rôle des parents dans l'apprentissage?
Bonne question, mon cher Edmondo. Il faut savoir que, par exemple, au collège, il y a 203 jours en France où on n'est pas à l'école. Les collégiens sont ailleurs, donc essentiellement chez leurs parents, sans compter les soirées, etc. Alors, ça a des conséquences, hein, c'est-à-dire ça met en exergue le rôle des parents. Effectivement, il est très important que le temps passé à la maison ne soit pas uniquement consacré au smartphone, aux réseaux sociaux, à regarder des séries à la télé, hein, mais plutôt favoriser des activités en famille, des activités type jeu, type sport en famille, sortie en famille, faire la cuisine aussi, chose de très important, apprendre à faire la cuisine pour les garçons comme pour les filles, hein. Bricoler, faire des travaux ménagers aussi, c'est des choses qui permettent d'avoir des interactions avec sa famille. On apprend la vie en fait, et c'est important, on apprend aussi des bonnes habitudes. Alors il y a une activité qui est beaucoup mise en valeur par certains auteurs, comme Michel de Burger, c'est la lecture, notamment la lecture partagée de tout ce qui est écrit à la portée des enfants. Il y a énormément de publications pour enfants, pour petits-enfants, pour grands-enfants, pour adolescents. Et ça, c'est extrêmement important et il faut y consacrer minimum 30 minutes par jour parce que actuellement c'est pas fait dans la plupart des familles et de plus en plus de temps consacré au smartphone malheureusement et aux écrans, qui est absolument pas une bonne idée. Alors il n'y a pas que la famille, hein, il peut y avoir le rôle des grands-parents, des oncles, des tantes, des cousins, des frères et sœurs bien sûr, qui ont souvent une importance très grande. Et puis, quand les enfants sont un peu plus grands, notamment, on va dire à partir de 12 ans, eh ben, ils peuvent faire partie d'associations. On a en France énormément d'associations, loi 1901. Ça apprend la vie sociale. Je crois que c'est fondamental, hein. Et puis, ça permet aussi souvent des liens intergénération, pour peu qu'on ne fasse pas partie d'associations qui est que des gens de son âge. On voit des étudiants de 18, 20 ans qui sont dans des associations, mais il n'y a absolument pas d'adultes, ce qui est un petit peu dommage parce qu'il y a une perte d'expérience, d'apprentissage qui n'arrive pas à se rattraper. Voilà. Et puis, ce qu'il faut en dehors de l'école, et qui se perd un petit peu malheureusement, c'est les jobs d'été. Les jobs d'été permettent d'apprendre énormément, et notamment en milieu rural, aller faire les vendanges, ramasser les fruits, c'est très très important. Et malheureusement, ça se perd un petit peu pour différentes raisons. Mais je crois qu'il faut vraiment dire que c'est fondamental dans l'éducation. Moi, je me suis mis à travailler à l'école le jour où je suis allé travailler à l'usine, parce que je me suis dit, voilà, qu'est-ce que c'est dur cette affaire-là. J'avais 12 ans, hein, et je remercie vraiment ma mère qui m'a mis au travail à 12 ans, parce que ça m'a permis de voir que c'était pas très drôle de travailler à la chaîne, et je me suis mis à travailler à l'école, sinon j'avais pas du tout envie de travailler.
Et vous avez parlé effectivement de la fonction très importante de la lecture, et pourquoi la lecture des livres, elle est primordiale durant le CP et le CE1?
Oui, c'est apprendre à décoder. Le cerveau humain lit depuis pas très longtemps en fait, hein. L'écriture a été inventée voilà à peu près 5000 ans en Mésopotamie, et l'imprimerie c'est 16e siècle, hein, donc c'était hier, si bien que le cerveau humain avait appris à parler et à entendre les messages oraux depuis des milliers d'années, depuis très très longtemps. Par contre, la lecture, c'est un phénomène récent pour un cerveau, et les circuits sont un petit peu banco, c'est-à-dire que il faut aller des lobes occipitaux, c'est-à-dire tout à fait en arrière, jusqu'aux lobes préfrontaux, tout à fait en avant. Et là, les circuits sont pas innés du tout, et il faut qu'ils soient rodés pendant quelques milliers d'heures. Et si c'est pas fait pendant l'enfance, après, il n'y a plus de plasticité cérébrale suffisamment correcte, et ce n'est jamais fait, si bien que ça donne des adultes qui ont du mal à encoder rapidement. Et c'est une grosse pénalisation pour un adulte qui n'a pas lu pendant son enfance. C'est pour ça qu'il faut que l'enfant lise d'abord, aidé par les parents, lecture partagée, comme on disait, et puis après, très rapidement, qu'il soit autonome pour la lecture, qu'il prenne vraiment du plaisir à lire, donc des livres attrayants, des romans, des choses qui n'y prennent pas la tête, mais qui l'intéressent, qui le passionnent. Et ça, c'est vraiment lié au succès scolaire après 15 ans. Il y a beaucoup d'études là-dessus. Michel Demurger, qui est un neuroscientifique, insiste beaucoup. Et je pense qu'il a vraiment raison.
C'est vrai qu'actuellement, on a beaucoup de sources d'informations. Est-ce que pour nos auditrices, nos auditeurs, vous pouvez nous donner des conseils? Comment on peut faire pour sélectionner ces sources d'informations?
Oui, bon, on est dans une période d'infobésité, on souffre de trop de sources d'informations. Il y a l'écrit, il y a l'oral, les écrans, et il faut essentiellement trier, parce que faut d'abord savoir de quoi on a besoin comme info. Plein d'infos qui arrivent dans notre cerveau dont on n'a absolument rien à faire. C'est même la majorité des informations qui nous parviennent, malheureusement. On a beaucoup de fausses informations. Par exemple, il y a ce qu'on appelle des vérités alternatives, c'est-à-dire on va dire, en termes simples, des grosses bêtises. Et il y a deux tiers des 18-24 ans qui croient à au moins une vérité alternative. Hein. Par exemple, que la Terre est plate, que l'hydroxychloroquine est efficace contre la Covid, que le vaccin ARN fait produire des protéines qui vont être dangereuses pour les enfants. Enfin, on a entendu et on entend constamment des grosses bêtises. Hein. C'est les fake news qui diffusent. Il faut savoir qu'il est plus facile d'ancrer des fake news dans la tête des gens que des vérités. Hein. Les études qui ont été faites, c'est extrêmement net. Hein. Et puis, par ailleurs, bon, on n'apprend pas à trier les informations, si bien que bon, il faut arriver à des âges avancés pour avoir quelques notions comment sélectionner ces sources d'informations. On sait, par exemple, que les enfants, entre 12 et 17 ans, enfin des adolescents, il y en a les trois quarts qui passent plus de 4 heures par jour sur les réseaux sociaux. Il faut regarder un petit peu ce que font les gens dans les transports en commun, on voit bien ça à Lyon. Et puis, il y a 25% de ces adolescents qui sont dépendants de leur smartphone. Donc, ils vont lire en permanence des contre-vérités, malheureusement. Alors, les parents, les enseignants doivent les informer. En général, ce qui vient de la part des enseignants, c'est des choses qui sont filtrées, qui sont réfléchies. C'est des vraies informations, hein, heureusement. Mais les fake news sont extrêmement fréquentes. Pour les écrits, ben, y a les livres. Donc, on parlait des livres fictionnels qui prédisent, dont l'usage prédit la performance à 15 ans. Les manuels, en général, sont des bonnes sources d'informations parce que ça a été réfléchi, etc., trié, à condition évidemment que ces manuels soient à jour, hein, qui ne datent pas de 15 ans en arrière. Et puis, même dans les périodiques, quand on regarde les périodiques chez les buralistes, on a pas mal de fake news ou de choses qui ont vraiment aucun intérêt. Alors il y a quelques périodiques qui sont d'excellente qualité. Moi, on m'a cité et maintenant je lis une revue qui s'appelle Science et Pseudoscience. Ça permet de faire le point sur des questions pour lesquelles on n'est pas spécialiste. Mais la plupart des revues sont malheureusement, elles sont présentes pour être vendues, mais pas forcément pour informer honnêtement la population. Et puis, pour les articles scientifiques, là, j'en parlerai pas, parce que c'est du domaine, on va dire, de l'enseignement supérieur, mais la plupart des articles scientifiques valent rien, il faut dire ce qui est. Donc, il faut apprendre à les trier. Et ça s'apprend, il y a des enseignants qui sont là pour ça, au moins dans l'enseignement supérieur.
Oui, c'est vrai que le temps passe tellement vite. Malheureusement, je suis obligé de poser la dernière question, mais c'est une chose très intéressante parce que dans un rapport fait par l'Académie de Toulouse de 2021, à l'université, il y a environ 70% des femmes en santé et en arts, lettres, sciences du langage. Par contre, elles sont moins de 30% en sciences fondamentales. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi cette différence ?
Ben, disons que c'est un peu ancré dans des idées reçues que l'on a tous. Notre civilisation occidentale pense que la femme est moins douée pour les mathématiques, pour les sciences physiques, ce qui est absolument faux. C'est absolument faux, mais c'est une idée qui a la vie dure. Alors, c'est très embêtant parce que l'industrie n'emploie que 30% de femmes en France, l'armée que 17%, et c'est dommage parce que on a besoin de beaucoup plus d'ingénieurs et les femmes font des ingénieurs souvent d'excellente qualité. Mais bon, effectivement, on a cette tradition, c'est des idées reçues, mais qui repose sur rien. Quand on regarde les sources neuroscientifiques, il n'y a aucune raison que les femmes soient moins performantes en mathématiques.
Merci beaucoup, professeur Léo, pour toutes ces considérations. C'est vrai que c'est un sujet très intéressant. Je profite aussi de votre présence. Est-ce que vous pouvez parler à nouveau, parce que votre livre est très intéressant, comment on peut acquérir votre livre? Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditrices, aux auditeurs qui sont intéressés d'approfondir un peu plus sous cette histoire de connaissances?
Ce livre s'appelle « Apprendre de la synapse à la classe ». Alors bon, vous pouvez le demander chez votre libraire ou le commander sur Amazon. Il est édité chez Ellipse avec un S à la fin, et il a été édité par moi-même, Jean-Jacques Lehaut, et Marc Lillot, qui est maître de conférence à l'université Claude Bernard Lyon 1. Voilà. Alors c'est un livre qui a plus de 400 pages. Donc ça vous occupe un petit moment, mais on peut lire un chapitre ou un autre, et pas forcément dans l'ordre qu'il est indiqué.
Parfait. Un grand merci. Est-ce que vous avez une considération finale pour nos auditrices ou nos auditeurs avant qu'on passe l'antenne à Laurent ?
Alors, je crois qu'il faut remettre un petit peu en honneur, au centre de l'apprentissage, les enseignants qui sont souvent mal considérés dans notre pays. Il faut qu'il y ait une discipline à l'école avec la parole de l'enseignant qui soit vraiment écoutée, parce que actuellement, on a des enseignants qui sont souvent découragés, et d'ailleurs on recherche des enseignants qui sont pas très bien payés aussi, donc il faudra une revalorisation de leur salaire, mais je pense qu'il faut le faire vraiment en urgence.
Parfait. Professeur Léo, un grand merci à nouveau de votre présence. Merci beaucoup, parce que je sais que vous êtes quelqu'un de très prié de nous avoir donné un peu de votre temps. Sachez quand même que l'antenne de Phare FM est toujours ouverte. Le jour que vous souhaitez revenir, vous êtes toujours le bienvenu. Comme aussi, vous êtes toujours bienvenu chez moi en Tarn-et-Garonne. J'espère bien que vous venez me rendre visite. Merci beaucoup de votre présence et de votre partagé votre sagesse qui est très grande. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Edmondo.
Laurent, je te passe l'antenne.
Merci, Edmondo. Merci, professeur, de votre passage sur Phare FM. Je rappelle que cette émission est à réécouter et à partager sur notre site www.pharefm.com, rubrique La santé, c'est l'affaire de tous.